Entier.
Les informations locales et régionales. Félix Antoine, le président de la Société d'histoire de l'Outaouais, demande que le Châtelot soit classé.
Effectivement, alors que la ville de Maniwaki a comme désir de retirer la désignation patrimoniale, le président de la Société d'histoire de l'Outaouais estime que c'est une option contraire qui devait être privilégiée. Lors de la consultation publique tenue par le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Maniwaki, Michel Prévost, président de la Société, a fait part au conseil qu'il avait posé une demande auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec afin de faire classer le Château Logue. Un bâtiment classifié signifie qu'il sera maintenant reconnu sous une protection plus accrue au provincial, en comparaison à une citation qui relève davantage de la municipalité qui accueille le bâtiment sur son territoire. Le président parle des avantages de cette demande.
La plus grande différence entre une citation et un classement, le classement protège l'intérieur et l'extérieur et protège aussi un périmètre là, de 500 mètres. Par exemple, si un jour on voulait construire une tour là, ou un bâtiment plus élevé tout près du château Logue, ce serait impossible de le faire parce qu'il y a une protection.
Parlant du Château Logue comme étant le seul bâtiment historique de Maniwaki et celui qui relate le plus l'histoire de la fondation de la ville, excluant les églises, Michel Prévost explique les critères motivant la demande de classement.
Ben d'abord, c'est un beau bâtiment en pierre, mais c'est aussi le fait que c'est le seul de style Second Empire là, avec le magnifique toit en mansarde. Ensuite, on a beaucoup mis l'accent sur la date de construction. L'enveloppe extérieure date quand même de 1887. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments à Maniwaki qui datent du 19e siècle.
Une inspection du bâtiment doit toutefois être réalisée avant d'obtenir une réponse quelconque, ce qui n'accélérerait pas forcément le processus de restauration du bâtiment.
C'est pas parce que la Société d'histoire de l'Outaouais vient de faire la demande que dans quelques semaines, que déjà le bâtiment va être classé et que la restauration va commencer. Pour l'heure, le plus important, c'est de maintenir une protection parce que si on enlève la citation et là, le bâtiment n'est pas classé, ben il n'y aura aucune protection.
Selon les informations du président de la Société, le Château Logue serait le premier bâtiment classé patrimonial dans la région de l'Outaouais si la demande est approuvée. Cela pourrait prendre plusieurs mois avant d'obtenir un dénouement à cet effet.
Nouvelle maison des aînés de Maniwaki a des ressources suffisantes pour le long terme.
C'est ce qu'on dit. La construction de la maison des aînés de Maniwaki marque l'ajout d'une trentaine de places en CHSLD pour le territoire. Considérant que la population de la vallée de la Gatineau âgée de 65 ans et plus est estimée à croître là, de 32,7% d'ici 2041, nous avons interrogé le 6 de l'Outaouais afin de savoir si les ressources en place permettront toujours de répondre aux besoins de la population au fil des ans. Selon les informations du chargé de projet au 6 de l'Outaouais, Marc Desjardins, cette construction permettra en effet de répondre adéquatement à la demande future.
Le ratio le plus élevé d'aînés qu'on devrait retrouver, qui va être en 2035-2040, on devrait répondre à ce besoin-là avec la nouvelle construction de 100 places.
Lors de l'ouverture de la nouvelle maison des aînés, la majeure partie, voire la totalité des places disponibles, devrait quand même être comblée, toujours selon M. Desjardins. Cela porte alors à se questionner sur le court terme, à savoir si d'ici 2 ans, les personnes dans le besoin seront en mesure d'avoir accès à une place en maison d'hébergement. Marc Desjardins répond.
Si on suit aux statistiques actuelles, aux projections actuelles, mais on sait, puis on l'a vu avec la COVID, qu'il y a eu beaucoup de migrations interterritoriales, autant en Outaouais puis autant de d'autres régions. Alors, il faut faire attention à ça. Mais les projections actuelles nous disent que le sommet le plus important en 2035 va être atteint et on va pouvoir y répondre avec aucun problème.
Les dates de fin des travaux se concrétisent d'ailleurs peu à peu. Le chargé de projet a mentionné que la possession du bâtiment devrait se faire aux alentours de février 2025. Les résidents, quant à eux, peuvent s'attendre à entrer dans leur nouvelle demeure au mois d'avril 2025. Les résidents du foyer Panguinard pourraient ainsi connaître un printemps à l'abri de la crue des eaux si les travaux se déroulent comme prévu.
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau maintenant procédera à l'installation d'une borne sèche au Grand Lacron.
La municipalité a adressé une demande en ce sens. La borne sèche sera située, vous le disiez, à proximité du Grand Lacron. La demande d'autorisation a été envoyée au ministère des Transports du Québec lors de la dernière assemblée du conseil municipal. La borne sèche sera située à proximité du lac des Pères, aussi connu sous le nom du Grand Lacron. Le maire de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Roch Carpentier, explique que c'est le développement de ce secteur qui a poussé la municipalité à prendre cette décision.
La borne sèche va être installée au Grand Lacron. C'est tout près du développement là, du lac des Pères. On a un gros développement au lac des Pères. Il y a beaucoup de villégiateurs qui vont s'installer là. Ça nous prenait un accès à l'eau rapide. Donc, on va aménager une borne fontaine sèche pour les services incendie, pour couvrir le nouveau développement et la partie du Grand Lacron là, qui se trouve tout près. Là.
Le maire explique qu'il s'agit d'une obligation comprise dans le schéma de couverture de risque de la MRC Vallée de la Gatineau.
Le schéma de couverture de risque au niveau de la MRC, on doit respecter des distances là, pour que les pompiers puissent remplir le camion-citerne. Donc, ça fait partie là, du schéma de couverture de risque aussi incendie de la municipalité. C'est pour mieux protéger nos contribuables.
L'aménagement de cette nouvelle borne devrait débuter rapidement, en fait, lorsque la municipalité aura obtenu l'aval du ministère des Transports du Québec.
Et pour midi, on risque de parler de quoi?
Ben écoute, il y a plusieurs projets en branle du côté de Kitigan-Zibi.
Mm-hmm.
Plusieurs projets. Là, on parle de pas loin de 30 millions de dollars qui sont en train d'être dépensés présentement à Kitigan-Zibi. Nouveau poste de police au coût de 9 millions. Agrandissement du centre Wanaki au coût de 9,2 millions. On a prolongé une rue de quelques 600 mètres au coût de 3 millions. On a agrandi le centre jeunesse également au coût d'une affaire de 3-4 millions. Bureau administratif, garage municipal, un autre 3-4 millions. Bref, la facture est autour de 28-29 millions de dollars pour tous ces travaux-là. C'est intéressant. Donc, j'ai réussi à avoir des détails par rapport à tous ces travaux-là. Mais c'est impressionnant. Puis, tu sais, je regarde les municipalités autour qui doivent être un petit peu jalouses, je dirais. Parce que, tu sais, nos municipalités en arrachent pour essayer de dépenser 200 000 pour faire une patinoire. Et là, on a la voisine qui dépense 30 millions d'un shot. C'est pas pire, ça. Donc, bref, on va reparler à midi de tous ces détails-là, mais c'est des gros chantiers, puis ils vont prendre fin là, au courant des prochains mois. Il y en a même 2024, là. C'est des gros chantiers.
Ça bouge, hein?
Ouais. Ça garde les gars à aller. Et les filles aussi, mais je veux dire, ça garde le monde en train de travailler. Fait que, on vous en reparle en détail à midi.
Merci beaucoup.